En octobre 2015, Famille Liberté, sous la présidence de Claire de Gatelier, a organisé tout un colloque sur le divorce, les enfants du divorce. Et lors de ce colloque, des statistiques avaient été données de l'UNICEF sur les enfants en souffrance selon le type de famille. Et je vous livre ces statistiques. 34% des enfants vivant avec leurs deux parents sont en souffrance. Ça interpelle quand même, ce chiffre est très élevé. 40% de ceux vivant avec un seul parent sont en souffrance. 42% de ceux vivant dans une famille recomposée sont en souffrance. Et à la fin du colloque, il y a une dame qui a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre. D'ailleurs, on était six intervenants, aucun de nous n'a répondu à sa question. Et elle disait, c'est quand même très étonnant ce faible écart entre les différentes structures familiales. Nous qui défendons le mariage, qui défendons la famille, comment se fait-il qu'autant d'enfants issus de nos familles sont en souffrance? Et elle disait, mais finalement, les statistiques de l'UNICEF sont peut-être fausses. Bon. Sa question m'a beaucoup interpellé parce que je ne savais pas y répondre. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est des statistiques de l'UNICEF, je ne sais pas du tout quel était le protocole selon lequel elles ont été classées, tout ça mériterait bien sûr d'être détaillé. Mais qu'importe. La question que je me suis posée, c'est comment se fait-il qu'il y ait si peu de différence entre des familles qui tiennent la route et des familles qui sont déstructurées sur le bien des enfants. Et c'est un peu la réponse à cette question dont je vais vous parler ce soir. La réponse, je l'ai trouvée dans le triangle. Le triangle père, mère, enfant. Et ce triangle est l'un des fondamentaux en psychologie. Et c'est donc toutes ces réflexions autour du triangle dont je vais vous parler ce soir. Alors, c'est vrai que le titre de cette conférence n'était pas très explicite, mais voilà de quoi je vais vous parler, c'est de ce triangle. Tout d'abord, dans ce triangle, je vais vous parler de ce qu'on appelle les relations dyadiques, c'est-à-dire deux à deux, la mère avec l'enfant, le père avec l'enfant, et le père et la mère ensemble. Et on va voir les influences sur l'enfant à chaque fois. Et puis ensuite, je vais vous parler dans un deuxième temps de la vie de ce triangle, mais dans son intégralité, le triangle en tant que tel, comme une unité. Et dans un troisième temps, je passerai effectivement les différentes structures familiales que nous avons actuellement au crible de ce triangle, vous disant un petit peu, ben voilà ce que ça apporte, voilà ce que ça retire, voilà ce qui se passe. Dans mon cabinet, je reçois principalement des adolescents, de moins en moins parce que j'ai plus le temps, et des adultes. À chaque fois que j'ai un adolescent ou un adulte qui vient me voir, je m'aperçois que les causes de ces difficultés, les causes de ces troubles sont dans ce triangle père-mère-enfant. Et en plus, je m'aperçois que les solutions à ces difficultés sont aussi dans ce triangle. C'est-à-dire que très souvent, je renvoie les personnes vers leurs parents en disant ben « voilà ce que vous allez faire avec vos parents maintenant. Voilà comment vous allez essayer de remettre en place la relation avec vos parents. » Et étonnamment, quand ils ont fait ça, ça va beaucoup mieux. Pour vous dire, si vous voulez, que c'est quelque chose de très important. Avec les adolescents, ça marche quasiment à tous les coups. Les adultes, on règle plus de 80% des problèmes dans les relations, en considérant les relations dans ce triangle. Alors, je parle bien de troubles, de déséquilibre, je ne parle pas de pathologies lourdes. Encore que les pathologies lourdes, il y aurait énormément de choses à dire également sur ce qui se passe dans ce triangle. Je reçois également dans mon cabinet des couples en thérapie conjugale. Et c'est fait pas loin de la moitié de mes patients, les thérapies conjugales maintenant. Donc je pense avoir une bonne expérience dans ce domaine-là. Et là aussi, je m'aperçois que la cause des troubles dans une relation conjugale, elle est dans les familles d'origine et dans ce triangle, dans chacune des familles d'origine. En revanche, le remède, il n'est plus dans la famille d'origine. Le remède, il est dans la relation entre les deux conjoints. C'est entre eux maintenant qu'ils vont ajuster ce qui s'est mal passé dans les triangles d'origine. Une telle constance sur l'importance de ce triangle, ça interpelle. Et du coup, je pense que la cause de ces statistiques, elle est là. Et c'est ça que je vais vous détailler un peu ce soir. Dans une des premières conférences que j'avais données ici, je vous ai parlé d'une qualité qui s'acquiert tout au long de l'enfance, mais principalement à l'orée de l'âge adulte, qu'on appelle l'ambivalence. Et je vous ai dit, quelqu'un qui est bien structuré a en lui cette capacité de comprendre l'ambivalence humaine. L'ambivalence humaine, je vous le rappelle, C'est ce paradoxe qui habite chacun de nous, cette contradiction qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Pour nous catholiques, le plus gros des paradoxes, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté, mais nous allons tous arriver pécheurs là-haut. Quand on y réfléchit, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et effectivement, depuis le péché originel, nous avons tous des qualités, nous avons tous de belles choses, nous avons tous un bel idéal, et puis nous traînons tous aussi nos vilains boulets, nos lacunes, nos défauts, nos mal-êtres, etc. Et aucun de nous n'est exempt de ça. Et l'ambivalence, c'est donc avoir le sens que chacun de nous est comme ça. Et le sens que si chacun de nous est comme ça, les relations que nous tissons sont également des relations ambivalentes. Et par conséquent, dans ce fameux triangle père-mère-enfant, la relation est aussi ambivalente et les choses ne se passent pas toujours très bien. C'est dans ce triangle que la majorité de nos attitudes, de nos comportements, de nos réflexes se façonnent au cours de notre enfance. Donc forcément, ça a un impact énorme dans notre vie adulte, puisque c'est là où nous avons fait tout cet apprentissage, c'est dans ce triangle. Donc forcément, tout ce que nous avons appris dans ce triangle va rejaillir dans notre vie adulte. Tout ça ne signifie pas, bien sûr, que nos parents sont des gens malsains. Mais c'est quand même dans nos familles, dans ce triangle, que nous avons acquis autant nos belles qualités que nos lacunes, que nous traînons nos boulets et que nous avons su aussi d'une façon très humaine. Ce ne sont pas les parents qui sont malsains, c'est la relation qui a été mise en place dans ce triangle qui nécessite d'être améliorée. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il ne s'agit pas du tout ce soir d'un cours théorique sur ce qui se passe dans ce triangle. Je vais simplement l'illustrer pour essayer de vous le faire vivre, de vous le montrer. Donc je m'excuse auprès de mes collègues psychologues qui sont ici ce soir, j'en ai vu dans la salle. Vous allez trouver qu'il y a un tas de choses que j'aurais dû dire sur ce triangle sur lequel j'ai passé, parce que simplement je ne veux pas vous faire un cours théorique sur ce triangle originel, je veux vous le faire vivre, vous en montrer l'importance qui est tout à fait différente. Alors, dans une première partie, je vais donc vous parler de ce qu'on appelle les relations dyadiques, c'est-à-dire les relations deux à deux, père-mère, père-enfant, mère-enfant. D'ailleurs, je dois dire, ceux qui me connaissent l'ont déjà remarqué, je ne suis pas si spécialement freudien ni psychanalytique. Cependant, ces relations dyadiques, c'est vrai que ce sont les continuateurs de Freud qu'ils ont principalement développées, ce sont les psychanalystes qu'ils ont énormément travaillé, et ils ont dit un tas de choses qui sont tout à fait vraies là-dessus. Donc toute cette partie sur la relation dyadique, effectivement, j'ai m'inspiré de ces auteurs psychanalytiques parce qu'ils ont dit des choses très intelligentes. Je le débarrasserai de toute cette anthropologie freudienne que j'aime pas du tout, et je le remettrai, voilà. Le point clé de ces relations dyadiques, c'est qu'elles vont créer l'attachement. Elles vont créer ce lien fort entre les personnes. Et vous savez que le lien le plus fort, c'est ce lien du sang. C'est ce lien que nous construisons avec chacun de nos parents, puis de façon un peu plus élargie, avec nos frères et sœurs, les grands-parents, puis les oncles et tantes, etc. Mais les points les plus forts, c'est cette relation avec chacun de nos parents. Cela montre donc, puisque tout l'attachement se fait là-dedans, toute la vie affective se passe là-dedans, toute l'importance de cette relation dyadique. La première relation dyadique, c'est donc celle de la mère avec son enfant. Je pense que le lien le plus étroit qui puisse exister entre deux personnes, c'est la relation entre la mère et son bébé quand elle le porte en elle. Vous savez que la vie du bébé est totalement dépendante de la vie de la mère. Il vit les mêmes émotions que sa mère, c'est-à-dire qu'il vit à travers sa mère d'une certaine façon. On ne peut pas avoir un lien plus étroit et plus fort que cela. C'est-à-dire qu'il ne vit pas par lui-même, il vit tout à travers sa mère. Il y a donc quelque chose, cette relation, on appelle ça la relation symbiotique ou la relation fusionnelle. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas lui-même, il vit tout ce que vit sa mère, il vit tout à travers de sa mère. Pour la mère, le grand enjeu de l'éducation, ça va être de faire exactement ce qu'on appelle éduquer, ex ducere, conduire à l'extérieur. C'est-à-dire apprendre à l'enfant à vivre sans elle, à l'extérieur d'elle. Et donc il va falloir une vingtaine d'années pour arriver à réaliser cette œuvre extraordinaire. Et ce n'est pas si facile. C'est-à-dire qu'éduquer, ça a consisté à conduire l'enfant d'une relation fusionnelle à une relation d'autonomie. Il y a quelque chose qui ne va pas se modifier dans cette relation. C'est l'affection de la mère et de l'enfant. C'est ce lien très fort qui les unit, qui peut durer toute la vie. Ça ne va pas bouger. Ce qui doit bouger, par contre, cette prise d'autonomie petit à petit par l'enfant qui va être conduit justement par ses parents pour y arriver. Une des difficultés là-dedans, évidemment, ça va être l'équilibre de la façon dont la mère conduit l'enfant ou pas. Une première difficulté là-dedans, c'est la mère qui va trop délaisser son enfant au plan affectif. Vous avez donc un enfant qui va être carencé en affection. Or, je vous ai dit que l'affection, elle doit perdurer dans tout ce transit, dans tout ce parcours. Vous savez qu'un enfant qui n'a pas ce qui lui convient, un bébé spécialement, va le solliciter chez ses parents. Il met en œuvre des stratégies extraordinairement, totalement inconscientes, il met en œuvre un tas de stratégies pour solliciter chez sa mère ce qu'il n'a pas. S'il n'a pas assez d'affection, il va donc solliciter sa mère pour avoir de l'affection. Ce faisant, il crée en lui des réflexes de quête affective, de susciter chez les autres des quêtes affectives. Si cela dure trop longtemps, arrivé à l'âge adulte, il sera en quête affective. Ça va être une espèce de tonneau des Danaïdes au plan affectif, on pourra le remplir, il n'en aura jamais assez, il aura ce réflexe permanent d'enquêter chez les autres, d'enquêter chez les autres. Vous imaginez que dans une vie conjugale, avoir un conjoint comme ça, c'est pas facile. Il est toujours insatisfait. On ne lui en donne jamais assez. Il est toujours en train de solliciter. Et ça, c'est déjà dans la relation dyadique que ça se passe. Quand je vous parle de ça, vous savez que les problèmes psychologiques, allez, une bonne moitié d'entre eux, c'est des problèmes affectifs. C'est-à-dire toute l'importance de l'équilibre de la relation affective avec la mère. C'est donc quelque chose de très fort. Une autre difficulté, ça va être la mère qui ne peut pas lâcher raisonnablement son enfant. C'est-à-dire que la croissance et l'autonomisation de l'enfant vont être ainsi contrariées. Et étant contrarié, l'enfant va avoir un sentiment de contrainte abusive qui s'exerce sur lui. Et toute contrainte abusive, toute injustice de ce type, ça génère chez l'enfant un sentiment d'injustice. Pardon, ça suscite chez lui, c'est toute cette injustice suscite chez lui de la colère. Le gros problème des colères de l'enfant contre sa mère, c'est que c'est ce qu'on appelle une colère interdite. Comment manifester de la colère à cette être qui s'occupe de vous tout le temps, qui est si gentil, qui est si dévoué, que l'on aime tant, avec lequel on a un temps de lien. C'est-à-dire ça fait des colères compliquées, ça, parce qu'on ne peut pas les manifester, elles ne peuvent pas s'extérioriser. Donc elles restent à l'intérieur de la personne. À l'âge adulte, ça vous conduit à une personne qui devient irascible, qui devient irritable, qui elle-même est toujours cette colère en elle. Donc un rien va la faire sortir. Chez l'adulte masculin, une des conséquences fréquentes de cela, c'est que cette colère contre la mère qui n'a pas pu s'exprimer va se transformer petit à petit en une colère contre la femme. Et la femme qu'il a sous la main, c'est son épouse. C'est-à-dire cet homme est en colère contre son épouse, laquelle est totalement innocente de ce qui s'est passé avec sa mère, mais vous voyez comment ce qui s'est passé dans une relation dyadique mère-enfant peut entraîner dans la vie conjugale future quelque chose d'hyper compliqué. Et je vous cite ce cas parce que je le rencontre très fréquemment dans mes thérapies. Un homme en colère contre la femme et donc spécifiquement en colère contre sa propre épouse. Or, l'origine n'est pas dans son épouse, l'origine, elle est chez sa mère, dans la relation avec sa mère. Pour vous dire toute l'importance de ce qui se passe dans ce triangle. Bon, je vous en dis pas beaucoup plus sur la relation dyadique entre la mère et l'enfant. Nous savons tous que la relation entre la mère et l'enfant est une relation qui est magnifique, qui est très belle, qui est très riche, qui est très très, très intense également. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est relativement connu. En revanche, je vais m'attarder un petit peu plus sur la relation entre le père et l'enfant. Pourquoi ? Parce que ce mouvement féministe que nous avons depuis pratiquement un siècle a fini par rendre les hommes complexés de leur masculinité. Et à force d'être complexés de leur masculinité, ils n'osent plus l'affirmer. Et si bien qu'avec leurs enfants, ils n'ont plus ce comportement masculin qu'ils devraient avoir, mais ils ont un comportement qu'ils mimétisent un peu sur celui de la mère. J'ai envie de dire, c'est une deuxième mère au rabais, finalement, l'homme. Or, c'est pas du tout ça, un père. Donc je pense qu'il est important d'en parler un petit peu. Vous savez que la mère biologique d'un enfant ne pose aucun problème. Elle est clairement identifiée. On l'a vu porter son enfant, elle l'a mis au monde avec d'autres personnes qui peuvent témoigner que c'est bien la mère, etc. Par contre, le père, qui va désigner le père? Qui va dire qu'il est le père? C'est la mère. C'est la mère qui va dire c'est lui le père. Et elle seule va le faire. Et là, la mère a un pouvoir social extraordinaire. C'est elle qui désigne le père. Je le dis parce que dans notre société très féminisée, on a tendance à prendre l'homme pour un oppresseur qui a tous les pouvoirs et qui écrase la femme. Là, ce n'est pas le cas. C'est la femme qui a un pouvoir très fort, tout à fait légitime, tout à fait naturel, tout à fait bon. Mais je pense qu'il est bon de le souligner. Donc, c'est la mère qui désigne le père. C'est la mère qui va faire le père d'une certaine façon. Je voudrais vous montrer, et j'espère que j'ai réussi, que le père n'est pas une mère au rabais. Comme la psychologie l'a souvent laissé entendre, et entre autres la psychologie psychanalytique, je pense, s'est trompée là-dessus, a très souvent laissé entendre que le père était un peu comme la mère, mais au rabais. Le professeur Delage, qui est un grand psychiatre qui vit à Toulon, voit deux grandes typologies pour la paternité. La première, c'est une typologie qu'il appelle du type hiérarchique. Du type hiérarchique, c'est ce que je viens de vous dire. Dans ce modèle, le père est une figure d'attachement secondaire. La figure d'attachement principale, c'est la mère. Dans ce modèle, le père est confirmé une espèce de rôle secondaire par rapport à la mère. Toujours un peu derrière elle, toujours un peu à la remorque, toujours un peu à faire ce qu'elle fait elle. Sans spécificité marquée. Ce modèle hiérarchique, bien qu'on parle souvent des nouveaux pères qui s'occupent de leurs enfants, etc., je trouve qu'il reste très, très présent, très prégnant dans notre culture. C'est-à-dire qu'on a des pères qui sont plus maternants que paternants. La deuxième typologie dont il parle, et je crois qu'il a raison, c'est une typologie qui est du type différencié. Le père reste effectivement second dans le temps par rapport à la mère. C'est la mère qui est la première étant en relation avec l'enfant. Le père étant second. Mais en revanche, il va ajouter une composante totalement différente de celle qu'apporte la mère. Et c'est ça dont je voudrais vous parler. Pour l'homme, l'annonce de sa paternité, et c'est la mère qui va lui dire « tu vas devenir père », l'annonce de la paternité est un ébranlement de toute la psychologie. D'abord, c'est une annonce qui n'est purement qu'intellectuelle chez lui. « Je vais devenir père », ça tourne là-dedans dans son cerveau, ce n'est que rationnel au départ. Mais cette connaissance intellectuelle va avoir un retentissement dans toute sa psychologie et va provoquer des transformations très fortes. Ça le met dans un état d'excitation durable qui va quasiment durer plus de 9 mois. À l'inverse de la maman, qui elle a d'abord une connaissance très charnelle de son bébé, elle le porte en elle, c'est son corps qui se transforme, c'est toute sa corporalité qui est mise en cause d'abord. Pour l'homme, c'est d'abord quelque chose de purement intellectuel. Vous voyez qu'on n'est pas du tout, dès le départ, sur les mêmes registres. Si on n'est pas sur les mêmes registres, c'est-à-dire qu'on ne va pas incorporer les choses dans notre psychologie de la même façon. Et donc forcément, on va avoir des attitudes différentes. Et je pense que c'est ça sur lequel il faut insister. Il va falloir 9 mois pour que cette connaissance intellectuelle bouscule toute la psychologie et finisse par s'incarner en lui, dans l'homme. C'est que l'homme est assez lent et processionnel, prend les choses une derrière les autres, à l'inverse de la femme qui va directement au résultat. Donc je pense qu'il faut bien 9 mois à un homme pour comprendre ce qui va lui arriver, qui va devenir père. Même le dernier des gredins, qui apprend par hasard qu'il vient d'enfanter, subit un énorme choc le jour où il l'apprend. Et on voit des gens qui changent, des hommes qui changent totalement de comportement parce qu'ils apprennent qu'ils attendent un enfant. Je pense, moi, que pour la plupart des hommes, le vrai moment où ils se transforment, c'est pas le mariage, c'est le moment où ils apprennent qu'ils vont attendre un enfant. Là, ils deviennent vraiment responsables de quelqu'un. Là, c'est vraiment quelque chose qui a un choc très profond en eux. C'est vraiment le moment où, j'ai envie de dire, il y a une maturité exceptionnelle qui va rentrer en eux. Une maturité inattendue par rapport à ce qu'ils étaient avant. C'est donc pas tellement le rapport avec la mère qui va changer l'homme. C'est l'annonce de cet enfant. C'est l'annonce qui devient responsable totalement d'un autre être qui va être dépendant de lui. Et c'est pour ça qu'il va être extrêmement important de le laisser jouer toute sa partition, tout son rôle, toute sa partition auprès de l'enfant. Parce que s'il ne fait pas son apprentissage dès le début, il ne va pas y arriver après. Donc vous avez compris que dans l'attente de l'enfant, ces 9 mois de grossesse, le papa et la maman ne vivent pas la même chose. Ne vivant pas la même chose, ils n'ont pas les mêmes réactions, leur psychologie se prépare différemment par rapport à l'enfant. Du coup, qu'est-ce que l'on constate, concrètement ? En présence de l'enfant, le père va avoir des gestes plus marqués. D'abord, il a sa voix qui est plus grave. Aussi, l'enfant va tout de suite le différencier de sa mère. Et si le papa a pu vivre la grossesse auprès de la maman, l'enfant déjà s'est habitué à cette voix différente de celle de sa mère. Donc il connaît déjà la voix de son père. Il sait, j'ai envie de dire, il est prêt à se mettre en relation avec lui. Il va falloir le laisser se mettre en relation avec lui. Il a même, l'enfant, mémorisé l'effet de la voix de son père sur sa mère, puisqu'il a ressenti le même effet. C'est-à-dire qu'il est déjà habitué à ce que cette voix provoque un effet sur lui. Et là, vous imaginez un tas de choses déjà. Si la voix du père est une voix qui est apaisante, qui pacifie la mère, qui la détend, qui la met en sécurité, alors l'enfant va être en sécurité avec son père pendant la grossesse. Si à l'inverse, la voix du père est quelque chose d'alarmant, quelque chose d'agressif, quelque chose qui met la mère en tension, l'enfant, quand il va entendre la voix de son père, sera déjà en tension. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer pendant la grossesse, j'ai envie de dire, l'enfant est conditionné déjà et préparé à toute cette relation avec son père. Quelques exemples concrets maintenant de comportements très différents du père et de la mère. Il y a quelque chose qui est absolument symptomatique. Les papas, quand ils ont leur bébé, ils les lancent en l'air, puis ils les rattrapent. Je n'ai jamais vu une maman lâcher son bébé. Mais le papa, oui. Vous savez, les bébés nageurs, ces petits bébés avec lesquels on apprend à nager, ils sont des tout nourrissons, là, on les met dans l'eau, ils apprennent à nager. Vous mettez une maman avec son bébé nageur, alors je peux vous dire que elle est complètement focalisée sur lui, et le moindre soupçon qui puisse couler, elle bondit sur lui. Mettez un papa avec son bébé nageur, qu'est-ce qui se passe? Il va regarder un peu son bébé, il va sourciller, s'intéresser aux mamans en maillot de bain à côté de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Le bébé va prendre un bouillon, bien évidemment. Il est quand même pas fou le papa. Là, il va le sortir de l'eau. Mais il va le sortir de l'eau avec un grand éclat de rire. Et curieusement, l'enfant va rire avec lui. Il va s'amuser avec lui. On n'est pas du tout sur les mêmes registres. Cet été, ça m'amusait beaucoup, je regardais un de mes gendres au bord de la mer avec sa petite fille. Il l'avait accroché dans son dos et il foulait sous l'eau. Et puis quand il réapparaissait, ma petite fille faisait des grimaces épouvantables. Et là, son père se retournait vers elle avec un grand éclat de rire et elle rigolait. J'ai jamais vu une maman mettre la tête de son bébé sous l'eau ou faire des trucs pareils. C'est-à-dire que chez l'homme, il y a quelque chose de très dynamisant pour l'enfant, quelque chose de très tonique. Dernier exemple. L'enfant, le jouet de l'enfant sont sur le bord du buffet. Il est trop petit pour y arriver. Sauf que là, il y a un tabouret ou un petit escabeau qui lui permet de monter. La mère voit ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite, elle donne le jouet à son enfant avant même qu'il ait commencé à toucher à l'escabeau ou au tabouret. Le papa, il va regarder. Il va regarder ce qui se passe. S'il estime que oui, c'est un risque courable pour son enfant, il va laisser faire. Autrement, non, il va agir. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Et c'est excellent, ce registre très dynamisant, très tonifiant que donne le papa. Il faut le laisser faire. Et il faut le laisser faire dès le début. Parce qu'il a besoin de s'habituer à son enfant, il a besoin de mesurer ce qu'il est capable de faire, ce que son enfant est capable de faire ou pas. Mais si on commence par tout lui interdire sous prétexte qu'il a trop, de façon trop dynamique, ça ne va pas bien se passer, il n'a plus rien à faire du tout. Donc le père est un activateur de l'enfant, beaucoup plus que la maman. La maman, elle est beaucoup plus dans le soin, dans l'émotion, et c'est tout à fait nécessaire, et il faut qu'il y ait ces deux registres. Le père peut être activateur d'une façon qui est équilibrée, ou d'une façon timorée, ou d'une façon excessive. Avec un père qui est équilibré, l'enfant va développer une tonicité de bon aloi, c'est-à-dire qu'il va être dynamique. Avec un père qui est trop contrôlant, l'enfant va être inquiet, il va être timoré, il ne va pas oser y aller. Avec un père qui, au contraire, est suractivateur, l'enfant va devenir téméraire, il va se mettre en danger lui-même. Donc il est très important pour le papa de bien mesurer ce qu'il fait, parce que ça va avoir un impact très fort sur l'enfant. Autre exemple du rôle du père, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais c'est quelque chose qui est très important. Je vous ai dit qu'un des enjeux pour la maman, ça est de pouvoir se séparer de son papa, se séparer de son enfant. Il y a quelque chose d'un peu contre nature quand même de vouloir séparer une mère de son enfant. Quelles sont les mères qui ont envie de se séparer de leur enfant? Elle a levé la main, il n'y en a pas une évidemment. Mais oui, la maternité, elle amène un lien très fort avec l'enfant. Or justement, le père va venir favoriser tout ce mouvement de séparation entre la mère et l'enfant. Le père, parce qu'il va être actif dans ce triangle père, mère, enfant, va les séparer avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'aisance et tout naturellement. Pourquoi ? Quand il est en relation avec son enfant, eh bien, il est une alternative à la mère. C'est-à-dire qu'il défusionne entre guillemets. Hein. Il ne permet pas à l'enfant d'être en fusion avec sa mère. Par contre, il permet à l'enfant d'être dans une belle relation, une relation qui lui plaît, une relation qui lui convient, parce qu'il a aussi un lien affectif avec son papa. Donc j'ai envie de dire, la simple relation entre le père et l'enfant est quelque chose qui va faciliter tout le rôle de la mère. Et puis, évidemment, la deuxième action, c'est quand le père s'occupe de la mère, quand ils sont ensemble tous les deux. Et je vous l'avais déjà dit, comme on dit, la porte de la chambre à coucher, elle est fermée, le gamin, il ne sait pas ce qui se passe là-dedans. Hein. Et qu'est-ce qui signifie, là, le père ? Ici, son enfant, « Le temps mon petit vieux suivre une femme, tu vas te la chercher ailleurs, celle-là, elle est pour moi. Hein. » Ce n'est pas dit explicitement, mais c'est très clairement signifié. C'est très clairement signifié que l'enfant sait, sa mère, elle n'est pas pour lui. Elle est pour son père. Elle est avec lui, mais pas définitivement. Et c'est très important, ce rôle de séparateur du père, qui se passe tout en douceur, et qui va énormément faciliter l'action de la maman. C'est pour ça que les papas qui ne tiennent pas leur rôle, ils viennent entraver énormément le développement de leur enfant. Donc vous l'avez compris, la démission paternelle crée d'importantes difficultés dans tout ce triangle père-mère-enfant, parce qu'il laisse l'enfant seul dans un face-à-face avec sa mère. Et ça, c'est pas sain. Donc je vous ai parlé de la relation de la maman avec son enfant, la relation du père avec son enfant, et maintenant on va parler de la relation des deux parents entre eux. Et vous allez voir, cette relation aussi a énormément d'influence sur l'enfant. Pourquoi ? L'enfant, c'est un spectateur passif de ce qui se passe entre ses deux parents. Et j'ai envie de dire là-dessus, il est comme une éponge. Il va s'imprégner tout seul, sans même s'en rendre compte de ce qui se passe. Et donc la qualité de la relation entre les deux parents va avoir un impact très fort sur ce développement de sa personnalité, sur le développement de ce qui va être plus tard. D'abord, si la relation entre les parents est une relation harmonieuse, eh bien, il va se sentir en sécurité, il va pouvoir se décontracter. En revanche, si la relation entre ses parents est orageuse ou tumultueuse, il va être inquiet, cet enfant. Il va être hyper inquiet, pourquoi ? Mais son univers, c'est le triangle. S'il sent que le triangle est en train d'exploser, c'est tout son univers qui explose. Donc c'est hyper angoissant. Donc on peut avoir des enfants qui sont angoissés simplement par la mésentente de leurs parents. Donc c'est très important. J'ai envie de dire, des disputes, malheureusement, il y en a dans tous les couples, malheureusement ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, je pense que c'est lié à notre nature humaine. C'est pas tellement la dispute qui est grave, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, qu'est-ce qu'on en fait ensuite auprès de l'enfant. Ça c'est très important. Si l'enfant ne voit que les disputes et n'assiste pas à la réconciliation, alors il va être sur une très mauvaise image. Si à l'inverse, après qu'il y ait eu un incident comme ça, les parents montrent à leurs enfants qu'ils sont bien en union l'un avec l'autre, qu'ils sont bien en harmonie, qu'ils sont en paix l'un avec l'autre, que cet épisode n'a été que quelque chose d'éphémère, qui n'est pas déterminant dans leur vie, alors l'enfant va pouvoir traverser ça avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de paix intérieure. C'est-à-dire que ça ne va pas entraver son développement. Donc je pense que les disputes conjugales, si elles ont lieu devant les enfants, doivent être suivies d'un témoignage. Il n'a pas forcément besoin d'être oral, ce témoignage. Ça peut être simplement signifié par les attitudes des parents que les parents sont bien en harmonie, en fait, l'un avec l'autre. Que ce n'était que quelque chose d'éphémère. Dans cette relation, deux points méritent attention à mon point de vue, parce que je les constate très fréquemment dans mes thérapies. Ces deux points, ce sont le matriarcat et l'autoritarisme paternel. Deux pôles un petit peu symétriques. Ils induisent quelque chose de très fort chez l'enfant. Le matriarcat d'abord, vous savez que c'est une relation de domination de la femme et de soumission de l'homme. Il est évident que quand une telle relation se met en place dans un couple, vous avez dans les triangles des deux parents, des triangles grand-père, grand-mère et le père et la mère, hein, vous avez des antécédents, vous avez des causes, vous avez des explications. Hein. Bon, mais c'est pas ça dont je vais vous parler maintenant. Ce matriarcat, il peut prendre des formes masquées. Je vous en donne un exemple d'une forme masquée. C'est une jeune femme qui vient me voir, qui se plaint du comportement de son mari, qui, bref, ça va pas du tout, et effectivement, ce qu'elle décrit de son mari, cet homme n'a pas du tout un comportement adapté. Donc, comme je reçois cette femme seule et pas le mari, comme en habitude, je vais investiguer qu'est-ce qui s'est passé dans son triangle personnel, père, mère et elle, quand elle était enfant. Et là, ce triangle laisse apparaître un matriarcat. Mais un matriarcat masqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la mère faisait toujours prendre des décisions par le père. Mais en fait, elle l'ouspillait, elle ne le lâchait pas tant qu'il n'avait pas pris la décision qu'elle attendait. Donc au bout d'un moment, par fatigue, ce monsieur finissait par décider ce que ça veut, valider ce que sa femme avait décidé. Et la mère se présentait dans les enfants, votre père a dit que, votre père ceci, etc. Donc c'est la mère qui prenait la décision, mais la faisait porter par son mari. Je remonte à la génération des grands-parents, et donc la génération des oncles et tantes de cette personne qui vient me voir, et là je m'aperçois exactement la même chose. Le processus se passe en deux temps. Premier temps, conciliabule des femmes de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Comment fait-on? Une fois qu'elles se sont mises bien d'accord sur la façon de faire, deuxième temps, on prend le premier homme qui nous tombe sous la main, et là, une par une, on va commencer à exercer une influence sur lui, jusqu'à ce que petit à petit, il prenne la décision qui avait déjà été prise dans le petit conciliabule avant. Et là aussi, on est une espèce de matriarcat masqué. C'est toujours l'homme qui officiellement porte la décision, sauf que c'est la femme qui l'a prise. C'est les femmes qui l'ont prise. Et donc, je vais constater tout ça à cette jeune femme qui me regarde complètement éberluée, et c'est très intéressant, c'est qu'elle soit complètement éberluée. C'est-à-dire qu'elle vivait ce matriarcat masqué dans sa famille maternelle depuis deux générations au moins, je ne suis pas remonté au-delà, elle ne s'en était jamais rendue compte. Elle ne s'est jamais rendue compte pourquoi. Parce que ce qui se passe dans le triangle, pour l'enfant, ça lui semble la norme. Ça lui semble ce qui doit se passer normalement. Même si c'est désordonné, c'est ce qu'il intègre comme étant la norme. Papa et maman, ils savent, moi je suis trop petit, je ne sais pas. Donc ce que font papa et maman, c'est bien. Et donc elle avait intégré en elle, vous imaginez tous les rapports entre le masculin et le féminin qu'elle avait intégré dans cette espèce de matriarcat masqué. C'est-à-dire que l'homme, mis comme une girouette en avant, mais en fait ne faisant rien du tout, et la femme dirigeant tout par-dessous. C'est exactement ce qu'elle faisait avec son mari. C'est pour ça que ce mari avait des comportements effectivement qui était inadapté, mais c'est en réaction à ceux de son épouse. Ce que je veux vous signifier là-dedans, c'est ce qui se passe dans les triangles, et là on voit les triangles sur deux générations, même trois générations quasiment, avec cette répétition. Pourquoi ? Ce que l'enfant a vécu dans ce triangle originel, il considère que c'est la norme, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui s'est imprégné en lui des rapports entre l'homme et la femme. C'est comme ça qu'il a construit en lui des rapports entre l'homme et la femme. Très nécessairement, il va reproduire la plupart du temps ce même phénomène. Sauf s'il a un esprit très critique, et là qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en opposition exactement inverse. Et il va faire tout l'inverse, ce qui n'est pas mieux. C'est-à-dire que c'est très difficile, quand les triangles sont désaxés comme ça à l'origine, pour l'enfant de trouver un équilibre conjugal dans sa vie future. Et énormément des difficultés conjugales viennent des difficultés dans les triangles. Parce que tout ça, c'est héréditaire, et vous avez compris comment. C'est héréditaire, non pas génétiquement, c'est héréditaire par imprégnation. L'enfant s'imprègne de quelque chose, ça lui semble la norme, ça lui semble ce qui doit se passer entre un homme et une femme, et il le reproduit sans même s'en rendre compte. Deuxième cas, c'est l'autoritarisme paternel. Je vais aller vite parce que, si vous allez voir, c'est un peu similaire. L'autoritarisme paternel, ça peut être maternel aussi, mais enfin fréquemment c'est paternel. C'est le père qui a en lui une colère, qui n'arrive pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans son triangle originel, lui aussi, qui l'a mis en colère, ça c'est évident. Toujours est-il qu'il a une colère. Cette colère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la manifester où? Dans sa famille, contre sa femme, contre ses enfants. Imaginez ce qu'intègre une fille quand elle voit son père maltraiter sa mère, même si ce n'est qu'en parole. Imaginez ce qui se passe chez un garçon quand il voit son père maltraiter sa mère. Même si ce n'est qu'en parole. Qu'est-ce qui s'imprègne en lui des rapports entre le masculin et le féminin? Là, quelque chose est complètement déviant, forcément. Donc déjà, on sait que ces enfants-là, si les choses ne sont pas corrigées, vont avoir des difficultés dans leur vie conjugale future. Et ça s'est joué dans le triangle. En plus, cet autoritarisme paternel, il est héréditaire, non pas génétiquement, mais par imprégnation, et même par un mécanisme beaucoup plus simple. L'autoritarisme provoque, c'est une injustice. C'est une injustice qui est faite aux autres, aux membres sur lesquels ils s'exercent. Or, la colère, c'est une réaction à l'injustice. Si avec ces enfants qu'on subit cette injustice, ils ont deux réactions possibles. Soit eux-mêmes, à l'âge adulte, vont commettre les mêmes injustices, parce qu'ils sont en colère, ils vont manifester aussi leur colère dans leur propre famille, et hop, c'est parti génération en génération. Et là, c'est très clair. Quand je remonte actuellement jusqu'au 19e siècle, quand je reçois des gens de ma génération sur leurs grands-parents, c'est le 19e siècle, du 19e siècle au 21e siècle, vous avez des familles, vous avez des filiations de colère comme ça, qui n'arrêtent pas. Du coup, je leur dis toujours, et vous avez continué ça encore pendant combien de générations? Donc là, ils disent, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Et ça, ça se passe dans le triangle, dans ce fameux triangle, toujours. Donc, pour conclure, c'est ce qui se passe entre les deux parents vis-à-vis de l'enfant. Au spectacle de ses parents, l'enfant se colore sur la thématique des relations homme-femme. Il va se construire là-dessus. Mais il va se construire non pas du tout de façon réfléchie, par imprégnation. Et ça, c'est très fort. Un très grand nombre de dysfonctionnements conjugaux ont leur origine là. C'est ce qui s'est passé dans les triangles d'origine de chacun des conjoints. Un cas clinique pour terminer sur ces relations entre le père et la mère. C'est un couple que je reçois en thérapie et ils se plaignent que leur fils, qui n'est pas encore adolescent, traite leur mère de façon grossière. Traite la mère de façon grossière. Et donc nous cherchons un petit peu avec ce couple ce qui conduit cet enfant à faire ça. Et le père finit par dire que oui, par moment, dans ses colères, lui aussi, il a des beaux traits grossiers envers la mère. Mais qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il ne fait que reproduire le schéma du père. Il s'est imprégné de ça, il le reproduit. Ça ne sert à rien de chercher à le corriger de ça, puisque la cause est toujours active. La seule solution, c'est que le père arrête. Le père arrête, c'est de maltraiter sa femme. J'ai envie de dire, quand l'enfant va s'apercevoir que le père traite sa femme avec égard, que la mère de l'enfant est traitée avec respect, avec égard, l'enfant va s'imprégner de ça, de lui-même, il va corriger, il va traiter sa mère avec égard. Mais si ce n'est pas fait, vous imaginez les dégâts dans une génération. Donc ce qui se passe dans ce triangle au niveau des deux parents a une énorme influence également sur ce qui se passe chez l'enfant. Voilà, je crois que j'en ai terminé avec les relations très dyadiques. On a donc vu les trois relations dans le triangle. Maintenant, je vais vous parler du triangle lui-même comme une entité vivante. En effet, l'attachement de l'enfant, il n'est pas que dyadique, il n'est pas que dans des relations deux à deux. La façon dont l'enfant s'attache à sa mère va dépendre de la façon dont la mère et le père sont attachés l'un à l'autre. Et la façon dont l'enfant va s'attacher à son père est également dépendante de la qualité des relations entre les deux parents. C'est-à-dire qu'une relation familiale dans laquelle il n'y aurait que des relations deux à deux serait une relation appauvrie. Et l'attachement serait affaibli par ça. Ce système un petit peu rigide où on a des relations que deux à deux dépasse ça pour l'enfant. Et j'ai essayé de vous le démontrer. Entre autres, ça privilégie l'existence des relations dyadiques au détriment d'un enrichissement nouveau. Parce que la relation dans un triangle considéré comme une entité va apporter un enrichissement nouveau à l'enfant. Alors, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais je vais vous le démontrer après. Entre autres, le bon fonctionnement de ce triangle en tant qu'entité va apporter beaucoup de sécurité à l'enfant. Ça va être un enfant qui va être en sécurité, qui va se sentir bien, et du coup va pouvoir épanouir ses qualités. Et un bon triangle qui fonctionne bien, c'est un triangle dans lequel il y a effectivement les trois relations dyadiques dont j'ai parlé, et il y a aussi un fonctionnement d'ensemble de tout le triangle. Le point capital là-dessus, et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer ce soir, c'est qu'il existe une capacité de réponse d'un tout petit enfant à ce qui se passe avec ses deux parents ensemble, et non pas séparément l'un de l'autre. Et ces relations avec les deux parents en même temps, elles sont très structurantes pour l'enfant. Alors, pour ça, je vais vous parler des recherches effectuées par Mme Elisabeth Fivage. C'est une psychologue clinicienne, un professeur de psychologie, qui travaille à l'université de je ne sais plus où. C'est en Suisse, je crois que c'est Zurich. Et entre autres, elle a fait énormément de travaux de recherche sur ce qui se passait dans ce triangle. J'ai eu la chance de pouvoir l'écouter et de pouvoir visionner des séquences vidéo qu'elle avait enregistrées dans ses travaux de recherche. Et c'est de ça dont je vais vous parler un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment très riche. Alors, ces travaux avec les familles donc étaient filmés. Et donc j'ai pu les visionner et je voulais vous les montrer. Vous allez voir, c'est très éclairant ce qui se passe dans le triangle. Le petit protocole est très simple. On met un enfant de 8 mois avec ses deux parents. On demande aux parents d'égayer l'enfant. Et puis les psychologues sortirent et la scène est filmée et on regarde ce qui se passe ensuite sur la vidéo. Premier cas clinique qu'elle nous a montré et que j'ai vu. La première chose qui me frappe, c'est la bonne entente entre les parents. Ils sont en harmonie l'un avec l'autre. Et donc ils essayent d'égayer l'enfant, comme on leur a demandé. Et à un moment donné, le père va à un éternuement qui monte, et puis qui ne sort pas finalement. Donc il fait une mimique énorme et ça fait rire son enfant, ça fait rire le petit bébé. Du coup, la maman se met à faire la même chose. Elle simule un éternuement. Et l'enfant rit aux éclats. Et ce que font les parents, et là j'ai trouvé très intelligent, tous les deux, ils se mettent tous les deux à faire mimer un éternuement et puis à sortir. Et au moment où il sort l'éternuement, l'enfant éclate de rire avec eux. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu magique pour les psychologues que je suis, mais j'ai essayé de vous faire partager ce moment magique. Au moment où les parents simulent cet éternuement, et donc où l'enfant va éclater de rire, ce fait l'enfant est assez extraordinaire. Il éclate de rire, puis il arrête. Il regarde sa mère. Il voit que sa mère est en train de rire, il rit avec elle. Il arrête, il regarde son père. Il voit que son père est en train de rire, il rit avec lui. Et il recommence. Et quand il a fait ça deux ou trois fois, alors il rit franchement avec les deux parents ensemble. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'enfant a été vérifié qu'il était bien en train de vivre avec chacun de ses parents exactement la même chose. Qu'il est en train de vivre une harmonie avec ses deux parents. Cela montre quoi? Ça montre que l'enfant... Il est programmé, entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot, mais il est très significatif dans notre langage moderne, il est programmé pour réagir à une interaction des deux parents en même temps, et pas simplement à l'un d'eux. C'est-à-dire qu'il est programmé pour cette relation triangulaire dans son ensemble, et pas simplement des relations dyadiques. C'est-à-dire que l'enfant, dès 8 mois, il sait être en relation avec deux personnes à la fois, ses parents. C'est quand même assez extraordinaire. Cette famille, elle est revue 5 ans après, pardon, 4 ans, un peu plus de 4 ans après. L'enfant a 5 ans à ce moment-là. Et pareil, même consigne, on les met dans une salle et on demande aux parents, eh bien, égayez votre enfant, faites quelque chose avec lui et on filme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que oui, effectivement, ça joue un peu. Et à un moment donné, l'enfant, 5 ans, il cherche à faire rire ses deux parents en même temps. C'est-à-dire que la petite scène qui s'était passée quand il avait 8 mois, il a très très bien incorporé, il essaye de la rejouer. Il essaye de remettre ses deux parents en harmonie avec lui, ensemble. Ça, je trouve ça quand même très très fort, si vous voulez. Et effectivement, quand il arrive à déclencher un fou rire avec ses deux parents, on sent là qu'il y a une espèce de béatitude en lui qui est assez extraordinaire. Pour que cela puisse se réaliser, il faut que les deux parents soient ensemble. Il ne s'agit pas qu'ils aient exactement le même comportement, mais il faut que les deux parents soient effectivement en harmonie, soient bien en harmonie l'un avec l'autre. Ça veut dire simplement que l'enfant, il a intégré un modèle de relation qui est basé sur une alliance avec ses deux parents. Et ce mot alliance, pour moi, est très fort. Ça veut dire que cet enfant, il est bien dans un engagement triangulaire avec ses deux parents. Cela montre que l'harmonie entre les deux parents est suffisante pour que cette alliance puisse se créer. Et ça montre aussi qu'une fois que cette alliance avec les deux parents est intégrée, l'enfant n'a que de cesse de la renouveler et de la faire revivre. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire, d'une certaine façon, quand on a fait vivre ça à l'enfant, il devient un facteur d'unité dans la famille, l'enfant. Un facteur d'unité de ses parents autour de lui. C'est pas beau, ça, quand même? Ça, c'est extraordinaire, non? Deuxième cas clinique. Toujours la même expérience. Là, c'est un autre couple qui arrive avec leur enfant. Et donc, même scénario, le bébé a 8 mois, et on demande aux parents, ayez votre enfant. Et là, pour une raison que j'ignore, à chaque fois que le père attire l'attention de l'enfant, la mère reprend tout de suite la main. Il ne lui est pas supportable, elle ne le fait pas exprès, hein, c'est pas quelque chose de conscient, mais il ne lui est pas supportable que l'enfant se détourne d'elle pour s'occuper du père, pour être avec le père. C'est-à-dire, sans même s'en rendre compte, elle reprend la main, elle réattire l'enfant vers elle. 4 ans après, on les revoit également. Et bien, c'est le même scénario qui se joue. L'enfant n'est jamais avec ses deux parents, il est toujours avec l'un ou avec l'autre. Mais le plus fort, c'est l'enfant qui décide avec lequel des deux parents il est. C'est-à-dire, cet enfant, il n'a pas appris à se mettre dans une alliance avec ses deux parents, il a appris à décider lui-même d'une coalition. Il est avec l'un pour exclure l'autre. Vous imaginez le développement de ces deux enfants ? Alors, Madame Fivage, vous allez les revoir quand ils sont adolescents. C'est trop récent, ils ne sont pas encore ados. Mais on attend avec impatience, dans quelque temps, effectivement, qu'elle revoie les parents et les enfants devenus ados et de voir ce qui se passe. Mais dès à présent, les points clés, c'est que, effectivement, l'enfant est prêt à une relation d'alliance avec ses deux parents à la fois. Et que si l'harmonie entre les deux parents n'est pas suffisante, cette relation d'alliance ne se met pas en place. Ce qui se met en place, c'est une relation de coalition. C'est l'enfant qui exerce le pouvoir, c'est lui qui décide avec lequel des deux parents il est. C'est écrasant pour un enfant de décider des relations comme ça. À 5 ans, c'est pas la responsabilité d'un enfant de décider avec qui il est en relation. C'est donc quelque chose qui n'est pas sain. Le plus embêtant là-dedans, c'est que non seulement la relation triangulaire ne se met pas en place, cette relation d'alliance ne se met pas en place, mais dans ces relations de coalition où l'un des parents est exclu, vous imaginez donc aussi que les relations dyadiques sont des relations qui ne vont pas bien aller. C'est-à-dire que ce défaut d'alliance que les parents n'ont pas su faire vivre à leur enfant va générer probablement des difficultés énormes dans cet enfant. En tout cas, vont entraver son développement. Il est clair que là-dedans, la maman, pour une raison que j'ignore, ce qu'elle est angoissée, ce que je ne sais pas quoi, est-ce qu'elle est fusionnelle, on peut penser à tas de trucs, qu'importe la raison, elle est certainement à trouver dans son triangle originel chez elle, la maman. La maman ne peut pas laisser au père sa place de père. Il faut qu'elle soit première. Ils ne peuvent pas être ensemble, en harmonie auprès de l'enfant, il faut qu'elle ait une prédominance. Et ça, c'est pas sain. Et en ce sens-là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, tous ces hommes qui, par complexe, pour différentes raisons, n'arrivent pas à tenir leur place de père, eh bien ces hommes ne permettent pas l'alliance avec l'enfant. Ils mettent l'enfant dans des coalitions. En ce sens, le rôle du père et la place du père, elle est primordiale pour le développement de l'enfant. La place de la mère, généralement, elle ne pose pas de problème. La mère, elle est toujours là auprès de son enfant. C'est la place du père qui pose un problème. Toujours dans ce qui se passe dans ce triangle avec les parents, je voudrais développer un petit peu l'entente parentale. Donc, c'est-à-dire que l'enfant, il est naturellement programmé pour réagir positivement à une entente de ses deux parents, à une harmonie entre ses deux parents. Et cette harmonie va lui apporter l'amour et la sécurité dont il a besoin pour son développement. A l'inverse, s'il se met dans des coalitions, c'est un enfant qui va être anxieux parce qu'il ne peut pas se développer correctement, il est dans une situation qui est plus angoissante. Il y a quelques conditions pour que cette alliance puisse se mettre en place avec les enfants. La première condition, c'est qu'il faut que les parents se manifestent entre eux de l'affection. Il faut que l'enfant sente cette affection, ce lien qui unit les parents. Et ensuite, il faut que cette affection que se manifeste les parents, elle retombe sur l'enfant également. C'est-à-dire que l'enfant soit dans un triangle complet d'affection, j'ai envie de dire. Un triangle d'harmonie et un triangle d'affection. Il est important aussi que les parents coopèrent envers le bébé. C'est-à-dire que les actions qu'ils fassent, qu'ils mettent en œuvre avec le bébé, soient également en harmonie l'un avec l'autre. C'est-à-dire que les actions doivent être coordonnées entre les parents sur les interactions avec le bébé. Et enfin, pour que ça se mette en place, il faut, en tout cas c'est ce qu'a montré cette expérience de Madame Fivage, il faut que les parents ajustent et harmonisent leur action à l'état de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte l'état de l'enfant. J'ai envie de dire, le petit scénario que je vous ai décrit, de ce petit mime d'éternuement là, que faisaient les parents, tout est réalisé là-dedans. Il y a une harmonie dans ce triangle, les parents sont bien en harmonie ensemble entre eux puisqu'ils le font, ils ont ajusté leur action à ce qu'attendait l'enfant, puisque c'est l'enfant qu'ils ont un petit peu sollicité, avec cet éternuement loupé du père qui l'a fait rire, du coup ils s'y sont mis tous les deux. Vous savez, on sent qu'il y a quelque chose là qui vit vraiment en harmonie et dans des liens d'amour. A l'inverse, le contre-exemple, celui des parents qui sont plutôt en compétition vis-à-vis de leur enfant pour attirer son attention. Ou des parents qui cherchent à accaparer l'enfant au détriment de l'autre. Alors l'enfant devient prisonnier de conflits de loyauté. Je suis loyal à papa, je suis loyal à maman. C'est destructeur et ravageur, ça, pour un enfant. Un enfant, il est fait pour être loyal à ses deux parents, pas en coalition de l'un contre l'autre. Et par ailleurs, cet enfant qui décide de lui-même avec qui il va se mettre en coalition, ben, il devient un peu le centre de la famille. Mais un centre malsain. Il n'est pas un centre d'affection, il vient un centre décisionnel de la famille. C'est tout à fait malsain. C'est-à-dire qu'il vient un enjeu entre les parents. Si nous regardons les statistiques de l'UNICEF dont je vous parlais tout à l'heure en introduction, alors on peut comprendre que même dans des familles structurées, mais malheureusement désharmonieuses, oui, il y a 34% des enfants qui soient en souffrance. Et je pense que l'explication, elle est bien à chercher dans le triangle. Dans les thérapies que je mène, le déséquilibre le plus fréquent que je rencontre, c'est ce que j'appelle la mère hégémonique et le père démissionnaire. Ce n'est pas exactement la même chose que le matriarcat, mais vous allez voir quelque chose qui en est un petit peu proche quand même. C'est donc la configuration que je vois le plus souvent. C'est-à-dire que les parents sont mal positionnés l'un par rapport à l'autre. Le lien qui lie un enfant à sa mère est tel que très souvent, la mère fera tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour son enfant. C'est-à-dire que si le père n'agit pas, la mère, elle va agir. Et elle fera tout ce qui est nécessaire. L'homme, lui, il est dans une toute autre logique. Hein. Il est sur un tout autre registre. L'homme, il est un peu étonné et admiratif de la maternité. C'est quelque chose de mystérieux pour lui, la maternité. Et lui, il ne sait pas très bien faire. Ce que fait sa femme, c'est bien. Ils ne sont pas toujours capables de le réaliser. Ils pensent que la spécialiste de l'enfant, c'est la mère, pas lui. Par conséquent, si la mère fait quelque chose, il va la laisser faire. Et comme en plus, c'est un peu dans le tempérament masculin d'être un peu feignant, bah si la mère le fait, c'est que ça doit être son rôle de le faire, et ce n'est pas mon rôle de le père. Et puis finalement, ça lui convient bien. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a une tendance un petit peu hégémonique chez la mère à prendre toute l'organisation de ce qui tourne autour de l'enfant, et il y a une tendance un petit peu démissionnaire chez le père. Et je pense qu'il est nécessaire d'être très vigilant sur ce point-là. Parce qu'au bout du compte, s'ils n'y prennent pas garde, ben c'est la femme qui finit par tout faire, et l'homme ne fait pas grand-chose. Le résultat, c'est que la femme, elle est positionnée clairement au centre de la famille, et le père, il est sur la marge. Sur le côté, ils sont plus du tout en harmonie comme parents ensemble. Je le vois sourire, mais ce cas est très très fréquent dans les couples que je rencontre. C'est un cas qui arrive très très fréquemment, à des degrés divers, mais qui arrive. Et l'homme, quand il est sur la marge et qu'il n'arrive pas à trouver sa place, ben, qu'est-ce qu'il fait au bout d'un moment? Ben, il se désintéresse. Il n'arrive pas à prendre sa place, donc il va s'occuper d'autre chose. Bon, il surinvestit son travail, il surinvestit je sais pas quoi, ses jeux de golf, j'en sais rien, mais il n'est plus dans la famille. Quand en thérapie conjugale, on éclaircit une telle situation, et je vous dis donc assez fréquemment, la première réaction des conjoints, c'est une réaction de défense. Mais aucun d'eux n'a jamais voulu ça. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais en plus, si on arrive à un tel résultat, puisque moi je ne l'ai pas voulu, c'est donc de la faute de mon conjoint. Et ça, c'est systématique. la femme va me dire, mais je suis bien obligé de le faire, il ne fait rien. Comment voulez-vous que ça se passe? Et c'est vrai, elle est bien obligée de le faire. Et le mari va me dire, mais je ne peux pas, elle fait tout, je ne peux pas prendre ma place. Et il a raison aussi. C'est-à-dire, c'est un mécanisme vicieux qui s'est mis en place entre les deux, hein, qui fait que le mari se retrouve marginalisé et la femme trônant au centre de la famille. Ils sont tous les deux totalement insatisfaits. On ne s'est pas marié pour ça. Aucun de nous ne s'est marié pour cette position-là. Seulement, c'est un piège du mariage. Hein, c'est quelque chose qui se produit fréquemment. Vous imaginez que dans une telle configuration, et c'est toute la famille qui est en tension. La mère, elle s'épuise, elle s'exaspère de son mari qui reste toujours ado, qui ne fout rien du tout. Hein, et le père, il dit, j'ai pas ma place là-dedans, qu'est-ce que je peux faire? Il ne se sent pas, donc il va s'investir ailleurs. Vous imaginez les relations dyadiques, la relation du triangle là-dedans, mais c'est le foutoir. Ça ne peut pas marcher. Donc attention à ce piège, et je vais terminer là-dessus pour cette deuxième partie. Hein, c'est quelque chose que je rencontre très fréquemment. C'est une tendance. Il y a une tendance chez la femme à l'hégémonie au niveau de la famille. Et une tendance chez l'homme à la démission. Donc une fois qu'on connaît ces tendances, on peut lutter contre. Il est évident que plus on s'aperçoit qu'un couple est tombé dans ce travers, plus tôt on s'aperçoit qu'un couple est tombé dans ce travers, plus vite on va pouvoir restaurer les choses. Mais si c'est installé depuis 25 ans, ça va être un peu plus compliqué. Parce que là, il y a des habitudes pour solidifier les choses et c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, cette tendance hégémonique de la femme, hein, quand elle est trop marquée, est à chercher aussi dans son triangle d'origine. Et cette tendance démissionnaire de l'homme, si elle est trop marquée, il faut également aller la chercher dans son triangle d'origine. Voilà. Dans une troisième partie, et un peu pour terminer, je vais vous parler maintenant des différentes configurations familiales. Alors je vais peut-être vous choquer, mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'honnête, et je vous livre librement mes réflexions. Quand j'ai affaire à une famille qui est plus ou moins déstructurée, mon premier objectif, ça va être les enfants. D'essayer de reconstituer au mieux le triangle auprès des enfants. Si je peux agir sur les parents, en plus, je le fais. Mais la priorité, c'est au moins que pour l'enfant, ça se passe bien. Donc de reconstituer un triangle le plus fonctionnel possible pour lui. Première configuration, les parents mariés. Vous allez tout de suite voir que cette configuration par rapport aux autres que j'ai remarquées, c'est la plus facile pour réaliser une bonne triangulation, pour réaliser cette alliance dont je parlais et éviter les coalitions. C'est aussi la plus riche potentiellement pour l'enfant, hein, par tout ce qu'elle peut apporter. Mais le danger pour nous, qui cherchons à défendre la famille, qui cherchons à défendre cet état de vie, hein, d'abord pour le bien de l'enfant, serait de croire que cette solution est miraculeuse par elle-même, qu'elle marche toute seule. Eh bien, il n'en est rien. Pour que ça marche, il faut se retrousser les manches, il faut le construire. Ça ne vient pas tout seul. Si un mariage est un contrat, une vie conjugale et une vie parentale, en revanche, c'est une construction. Et si on ne construit pas, eh bien, ça ne marche pas. Et l'enfant va en payer les pots cassés. C'est-à-dire qu'il faut avoir la volonté de construire ça, il faut avoir la volonté de s'y mettre. Le mariage en tant que tel n'apporte rien. Alors c'est peut-être choquant ce que je vous dis, mais dans ce triangle, le mari en tant que tel n'apporte pas la solution. Ou en tout cas, il apporte la solution d'une façon potentielle, mais il faut la réaliser. Il faut la rendre active, cette solution. C'est-à-dire que cette alliance triangulaire, cette bonne alliance au sein de la famille, c'est l'objet de tout un travail. Ça ne vient pas spontanément. Les mariages où cette alliance ne se met pas en place induisent des difficultés chez l'enfant, et souvent des difficultés durables si elle n'arrive pas à se mettre en place. Un mariage dans lequel les parents sont en permanence en train de se disputer me semble plus malsain pour l'enfant que d'autres situations extra-conjugales que l'on va voir tout à l'heure. On va voir si après. Plus malsain pour l'enfant, je dis. En revanche, les mariages qui fonctionnent bien, dans lesquels cette alliance a été faite, sont effectivement le facteur le plus enrichissant qu'on puisse trouver pour l'enfant. Deuxième configuration, les parents non mariés. Ça fait plus, on le sait, c'est pas un scoop, ça fait longtemps que nos gouvernants successifs, avec une étonnante constance, hein, depuis des années, cherchent à vider le mariage de toute sa structure. Et ils ont façon compréhensible, effectivement, que de plus en plus de personnes vivent ensemble sans officialiser ça par un mariage. Cependant, le mariage offre un avantage sur cette solution-là, c'est que le mariage, il offre une image de stabilité. Il garde une image de stabilité de quelque chose de définitif entre les personnes. Et ça, c'est un point qui est capital pour l'enfant. Puisque l'enfant se définit dans ce triangle, la stabilité, la pérennité de ce triangle est un facteur très apaisant pour lui. En revanche, toute menace sur ce triangle, toute menace d'éclatement sur ce triangle est un facteur d'angoisse, est un facteur insécurisant pour lui. C'est-à-dire que le triangle n'est sécurisant que parce que le triangle lui-même est en sécurité. Si ce triangle a vocation à exploser, alors c'est toute la structuration qui se fissure petit à petit. Or, lorsque les parents ne sont pas mariés, c'est bien la stabilité du lien entre les parents qui n'est pas explicitement affirmée. Au contraire même, ce qui est implicitement signifié, c'est l'affirmation suivante. Je reste avec toi, tant que tu suscites en moi des émotions et des sentiments positifs, mais si c'est plus le cas, je te quitte. C'est-à-dire que le non-mariage fait planer une menace sur la stabilité. Et donc une telle relation présente un caractère de fragilité qui est angoissant pour l'enfant. Je remarque cependant qu'un enfant sera plus en sécurité dans cette configuration que dans celle d'un mariage où les parents se disputeraient continuellement. Les parents en train de divorcer maintenant. Une des grandes difficultés du divorce, c'est que les conjoints ont tissé des liens très forts entre eux. Et finalement, ce n'est pas facile du tout de divorcer. C'est même hyper compliqué de déstructurer ces liens qu'on a tissés pendant de nombreuses années. En plus, le mariage, c'est quelque chose qu'on a fortement investi. Donc le divorce, c'est pas du tout une chose facile. Et pour se défaire de ces liens, il faut un effort conséquent. Comment va-t-on faire cet effort conséquent? Eh bien, dans la plupart des cas, on ne va arriver à faire l'effort conséquent qu'en se mettant en colère. Et en se mettant en colère contre son conjoint. C'est-à-dire que la plupart des gens qui divorcent rêvent d'un divorce à l'amiable, d'un divorce qui va se faire d'une façon pacifiée, sauf que c'est la plupart du temps pas possible. C'est pas possible parce que justement les liens sont très forts et qu'on est obligé de se mettre en colère contre l'autre pour arriver à dénouer ces liens parce que ces liens sont trop forts. Et donc dans le divorce, très fréquemment, vous avez cette espèce de boucle vicieuse de colère qui se met en place entre les conjoints, avec bien évidemment des avocats spécialisés là-dedans, qui savent très bien où est-ce qu'il faut aller chatouiller les personnes pour exciter la colère, parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas se faire autrement. Vous imaginez tout à fait dans cette configuration que là il n'est plus question d'alliance parentale, il n'est plus question d'alliance dans le triangle, il n'est plus question de relations pacifiées. Non, c'est l'explosion là. C'est pour ça que le divorce à l'amiable, il n'est pas si fréquent que ça. Je sais que c'est le rêve de tous les parents qui veulent divorcer, mais il est hyper compliqué le divorce à l'amiable. Et j'ai envie de dire, si les parents arrivent à faire un divorce à l'amiable, c'est-à-dire s'ils arrivent à s'accorder sur ce point-là, c'est quand même un énorme paradoxe que de divorcer quand on peut s'accorder. À ce moment-là, ils peuvent s'accorder sur le reste aussi la plupart du temps. Quatrième configuration, la famille recomposée. C'est-à-dire que donc il y a eu un divorce, et puis il y a un homme qui est venu rejoindre la mère, qu'on va appeler le beau-père, généralement, ou le compagnon, enfin bon, qu'importe. Et effectivement, ce beau-père va permettre de créer un nouveau triangle. La mère, l'enfant et le beau-père. Le problème, c'est que ce nouveau triangle, il est dissymétrique d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce que la mère, elle a un lien biologique avec l'enfant, donc ce lien du sang qui est extrêmement fort. Par contre, le beau-père, il n'a pas le lien du sang. C'est-à-dire que le lien est beaucoup plus ténu, il est beaucoup moins solide. Or, vous savez que le biologique entraîne le psychologique. Si le lien est beaucoup plus ténu au plan biologique, au plan psychologique, il va être beaucoup plus ténu également. C'est-à-dire que l'équilibre triangulaire dont nous parlions tout à l'heure, il est désaxé. Il n'y a plus vraiment d'équilibre, ça va être beaucoup plus compliqué. Par ailleurs, en cas de difficulté sur l'éducation des enfants, si le beau-père et la mère ne sont pas d'accord sur la façon dont on va éduquer les enfants, la situation devient très délicate. Pourquoi ? Ben, la mère, elle veut considérer qu'elle seule est compétente pour éduquer l'enfant. C'est son enfant à elle, c'est pas le sien. Par ailleurs, le lien du sang étant le lien le plus solide, entre, si la mère devait choisir entre son compagnon, c'est-à-dire entre le beau-père et son enfant, le choix est vite fait, elle choisira toujours l'enfant. C'est-à-dire que dans ce triangle, vous avez un déséquilibre d'entrée de jeu, qui rend très très difficile au plan thérapeutique de travailler ce triangle. C'est quelque chose qui est compliqué. Psychologiquement, la plupart de mes collègues ne travaillent pas avec le beau-père. Ils font revenir le père biologique. Et on travaille avec la mère, le père divorcé, mais biologique, et on retravaille ce triangle-là. On n'arrive pas bien à travailler avec ces triangles recomposés. Donc je pense qu'il fallait le dire quand même. Par ailleurs, l'enfant, s'il n'est pas d'accord avec le beau-père, c'est très bien que ce n'est pas son père, lui. Une fois qu'on a identifié son père, on ne change pas de père, c'est définitif. Il a très bien compris que cet homme-là, ce n'était pas son père. Il a très bien compris que sa mère ne le laisserait pas tomber. Et là, il a un bras de levier entre les deux qui est extrêmement fort. Il m'est arrivé souvent de voir dans des familles recomposées des enfants qui, justement, allaient pile poil se mettre dans ce biais-là et qui jouaient la mère contre le beau-père. Qui jouaient la concurrence, savoir qui allait avoir la femme, entre guillemets. C'était lui ou c'était le beau-père. Et il cherchait à gicler le beau-père. Donc c'est compliqué, ce triangle de la famille recomposée. C'est une solution qui nous est présentée comme allant de soi, et ben moi je trouve pas du tout en psychologie que ça va de soi, je trouve ça hyper compliqué. Dernière configuration, la fille mère. C'est sans doute la configuration la plus difficile au point de vue d'une alliance triangulaire, ben parce que l'enfant n'est pas dans un triangle, il est seul avec sa mère. Relativement fréquemment, la fille mère elle reste pas seule. Soit il existe un homme qui rejoint la mère, et on revient à la situation précédente, avec un beau-père, avec toutes ces difficultés dont on a parlé tout à l'heure. Soit, fréquemment, ce qui se passe, c'est la grand-mère maternelle, la mère de la mère, qui vient aider sa fille. Et là, vous reconstituez un triangle qui est très particulier, parce qu'il manque une altérité masculine là-dedans. C'est donc la mère, la grand-mère et l'enfant. C'est donc un triangle qui est déséquilibré d'entrée de jeu. Vous avez souvent des grands-mères qui ont beaucoup d'intelligence là-dedans, qui ont une intelligence de la situation, qui savent se positionner correctement par rapport à ça et de façon tout à fait remarquable. Dans ce cas, il est quand même possible de reconstituer un triangle dans lequel l'enfant se sent en sécurité. Il va se sentir en sécurité, il n'y a pas les dangers des triangles précédents, parce qu'au moins avec la grand-mère, il y a un vrai lien. Il y a un lien du sang qui est actif. Et donc un lien d'affection, il ne va jamais abandonner sa grand-mère non plus. Il peut peut-être mettre un peu en concurrence la mère et la grand-mère, mais si la grand-mère arrive à se mettre en intelligence avec sa fille, à faire les choses en harmonie, on peut reconstituer un triangle sécurisant pour l'enfant. En revanche, la grande lacune, c'est l'altérité. Il n'y a pas l'altérité masculine. Il n'y a pas tout cet apport du père dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut parler un petit peu aussi du couple homosexuel féminin généralement, qui pas trop répandu, mais qui va peut-être se répandre de plus en plus. C'est évidemment la configuration qui nous choque le plus. Je n'ai jamais été confronté à ce cas-là, mais je me suis dit, mais si un jour, j'en avais deux qui venaient me voir pour me parler de leur enfant, là, qu'est-ce que je ferais ? Eh bien, je pense qu'effectivement, je m'attacherai au bien de l'enfant. Et j'essaierai, avec ces deux femmes, de recréer un triangle d'une certaine façon. Pour qu'au moins l'enfant se sente en sécurité. Néanmoins, c'est un triangle qui est complètement déséquilibré. Si une des deux femmes est effectivement la mère de l'enfant, vous retrouvez tout ce déséquilibre avec l'autre qui ne l'est pas, dont on a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de lien biologique. L'absence du masculin aussi va rendre la chose hyper compliquée. Tout ce rôle du père dont j'ai parlé tout à l'heure ne peut pas se mettre en place. Il n'y a donc pas cette figure masculine qui va servir de référence, qui va permettre de se construire dans la différenciation des sexes. Et puis, bien évidemment, il y a toute cette confusion entre des genres qui apparaît. Mais j'ai envie de dire, si j'étais confronté à ce cas-là, justement parce que c'est une des solutions les plus compliquées, il est important pour l'enfant d'essayer de trouver quelque chose qui le mette au mieux. Alors, je pense qu'il est temps de conclure un petit peu. Vous avez compris que pour qu'un enfant se développe bien, il faut qu'il soit dans un triangle fonctionnel, qu'il soit bien en alliance. Le face-à-face dyadique n'est pas suffisant pour l'enfant, il a même un aspect malsain. Le seul face-à-face. Il faut que ce face-à-face soit complété par une autre dyade, et il faut qu'il soit complété par toute la vie du triangle. Quand ce triangle est harmonieux, effectivement, l'enfant se met dans des postures d'alliance, c'est-à-dire qu'il vit en paix avec tous les membres du triangle. Et ça conditionne un bon développement de l'enfant. Plus particulièrement, l'enfant vient rentrer dans une grande perméabilité à la qualité des relations entre les personnes qui s'occupent de lui. À l'évidence, me semble-t-il, le mariage est la solution qui présente la plus grande potentialité dans ce domaine-là. Le mariage est la seule solution qui réunit toutes les conditions du meilleur développement de l'enfant. Par contre, le mariage ne garantit pas ce bon développement de l'enfance. Et je pense que ce point-là est capital. En déstructurant la famille, il est évident que notre culture déstructure aussi ce triangle fondamental dont je vous ai parlé, père-mère-enfant. Cependant, en ce faisant, elle accroît chez les individus les déséquilibres, les rancœurs, les colères. Elle accroît en son sein, donc, de cette société, le nombre de révoltés et de personnes qui deviennent plus facilement manipulables. C'est quelqu'un qui est déséquilibré, a moins de stabilité, donc on le manipule comme on veut. Par contre, quelqu'un qui est bien droit dans ses baskets, qui a bien vécu, là on ne lui fait pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que cette société, elle crée effectivement en son sein un terreau révolutionnaire au prix du malheur des personnes. En vous parlant de toutes ces dernières parties, mon propos était surtout de vous aider à mieux comprendre pourquoi nous défendons le mariage et à pouvoir nuancer nos propos. Je ne crois pas du tout que le mariage soit spontanément une solution miracle, c'est une solution qui se construit. Mais aussi, dans mon métier de thérapeute, et cela est important, c'est aussi un objectif ce soir, de vous ouvrir à la charité nécessaire sur ces formes de ces structures familiales auxquelles nous ne sommes pas habitués et auxquelles nous nous sommes confrontés de plus en plus, et c'est pas fini. Et entre autres, comment réagir d'une façon charitable envers des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus délicates, ou dans des situations de vie qui ne sont pas conformes à ce que nous pensons. Très spontanément, je peux vous avouer que quand je suis face à des situations pareilles, mon premier réflexe, c'est de stigmatiser la structure familiale, de stigmatiser ce qui se passe. C'est pas un bon réflexe, je le sais bien, mais c'est ma première réaction. Le bon réflexe, je pense, c'est le bien de l'enfant d'abord qu'il faut aller chercher. Dans ce chamboulement culturel que nous vivons, c'est à la fois très difficile de garder l'esprit clair sur ce qui est bon et sur ce qui ne l'est pas, et en même temps de savoir adapter notre attitude avec beaucoup de charité, beaucoup de bienveillance envers des personnes qui, parce qu'elles-mêmes ont été dans des triangles déficients, n'arrivent pas à construire leur vie correctement et se mettre dans des structures qui sont un petit peu particulières. Et ce point d'équilibre entre une claire conception des choses et une attitude de charité me semble délicat. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et bien sûr je suis prêt à répondre aux questions auxquelles vous pourrez. Oui.
Merci pour cette très intéressante conférence, comme les précédentes d'ailleurs.
Merci.
Je voulais vous demander votre éclairage sur trois points, trois situations. Dans des familles a priori harmonieuses, avec une relation père-mère délicate, aimante, etc., on voit des adolescents qui peuvent être indélicats avec leurs parents pendant l'adolescence, voire grossier, comme vous disiez tout à l'heure, voire qui cherchent un peu à blesser leur mère ou leur père, etc. Quel est votre éclairage dessus ? Deuxième point, quand on écoute attentivement votre première partie, et si on la prend à la lettre, on a l'impression en fait éventuellement de subir les triangles des générations précédentes, et pourtant on voit des familles harmonieuses ou des gens stables équilibrés, qui ont vécu orphelins à cause de la guerre, et qui ne sont pas forcément passés chez un psychologue. Donc, est-ce que il y a un déterminisme vraiment, ou alors est-ce qu'on arrive à sortir de deux ou trois générations de triangles un peu difficiles, voilà, parce qu'il y a quand même des familles épanouies, même s'il y a eu voilà, un père absent, un orphelin, un marin qui n'était jamais là, bon, bref. Et puis troisième point rapide, quelle est l'analyse du triangle pour des enfants adoptés, et donc pas une mère naturelle. Voilà. Merci.
Excusez-moi, je m'en ai répété le premier point rapidement. Je n'ai pas noté, j'ai tant que réfléchir aux réponses et j'ai oublié de noter.
C'est les ados qui sont a priori dans des oui. familles harmonieuses, où tous les parents s'aiment, où le père.
Entendu, je me souviens. Très bien, merci. Je réponds à votre question. Alors, tout d'abord, l'ado en révolte. Le premier point, c'est qu'il n'existe pas de triangle parfait. Nous avons tous des lacunes, nous avons tous des difficultés. Donc il n'existe pas de famille parfaite, de famille harmonieuse. Toute famille comporte son lot de difficultés, son lot de malfaçons, son lot de choses, etc. En tout cas, moi, j'en ai jamais rencontré. Je sais très bien que ma propre famille n'est pas exemple non plus. Nous sommes tous marqués du péché originel. Donc, j'ai envie de dire, soyons décomplexés en tant que parents, on n'arrivera pas à la perfection. Mais si on n'arrive pas à la perfection, ça veut dire qu'effectivement, il y a des malfaçons dans chacune de nos familles. Donc, vous me parlez d'une famille harmonieuse, oui, je ne donne pas une demi-heure avec une famille harmonieuse pour aller chercher des trucs qui ne vont pas dedans. Forcément, c'est tellement humain, mais c'est notre humanité qui est comme ça, ça n'existe pas la famille parfaitement harmonieuse. Donc, dans une famille harmonieuse ou en apparence harmonieuse, il y a un ado qui soit en révolte, un ado qui fasse qui ait des malfaçons, ben oui, c'est normal. C'est, j'ai envie de dire, ça fait partie aussi de notre humanité, et il faut savoir l'accepter avec ambivalence. Il ne faut pas s'y résoudre. Il faut essayer de l'aider, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce que aucun triangle n'est parfaitement fonctionnel. Nous avons tous vécu dans des triangles qui sont en partie dysfonctionnels et en partie fonctionnels. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, l'orphelin. Et puis d'abord le déterminisme. Alors ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas de déterminisme. Il y a des mécanismes, mais ces mécanismes sont une influence très forte sur nous. Mais nous gardons toujours un espace de liberté qui nous permet effectivement d'y échapper. Le problème, c'est que ces mécanismes, la plupart du temps, ils sont inconscients. Donc nous ne savons pas à quoi contre quoi nous devons lutter, nous ne savons pas à quoi nous devons nous opposer. C'est systématique dans toutes les thérapies que je donne, tous les ressorts dont je vous ai parlé, tout ce qui se passe dans le triangle, c'est complètement enfoui. On le travaille avec les personnes, on le fait réémerger dans la conscience. Mais si les personnes avaient conscience de tout ça, elles n'auraient pas besoin de venir en thérapie. Donc c'est complètement... Donc il n'existe pas un déterminisme, nous gardons une certaine liberté, mais notre liberté n'est pas un absolu non plus. Nous, j'ai envie de dire, nous sommes à la jointure de mécanismes et de notre liberté. Ou plutôt, notre liberté est conditionnée par des influences familiales très fortes que nous subissons. Et entre autres, un tout petit enfant n'a aucune liberté. C'est-à-dire que lui, il prend de plein fouet l'influence de sa famille. Et là, pour le coup, totalement. C'est vrai qu'au fur et à mesure où on grandit, on arrive à quelque chose qu'on peut davantage réfléchir. Le langage que je tiens souvent aux personnes qui viennent me voir dit « Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé dans votre enfance, en bien comme en mal. Vous êtes comme tous les enfants, vous avez vécu, vous n'avez pas choisi votre famille, vous avez vécu dedans, vous l'avez aimé, etc. Et vous arrivez à l'âge adulte dans un certain état. En revanche, il est de votre liberté maintenant de vous assumer tel que vous êtes. Je suis comme ça, c'est à moi maintenant de faire quelque chose de ce que je suis. Je ne vais pas aller revendiquer contre mes parents quelque chose. Ça, c'est une attitude d'enfant de revendiquer contre ses parents. Une attitude d'adulte responsable, c'est de s'assumer tel qu'il est. Voilà. Voilà ce que je voulais vous répondre un petit peu entre ce déterminisme et la liberté. C'est vrai que pour nous psychologues, c'est un point qui est délicat parce que nous cherchons toujours les mécanismes. Donc on aurait tendance à nier la liberté. J'ai d'ailleurs beaucoup de collègues qui nient la liberté. Mais vous avez raison de rappeler que non, il y a une liberté humaine, on n'est pas dans un déterminisme complet. Pour ce qui est maintenant de l'orphelin. L'orphelin qui se développe bien, c'est un orphelin autour duquel on a reconstruit un triangle. Un triangle différent, mais un triangle qui a bien fonctionné. Et ça existe. Moi, j'ai effectivement des exemples de personnes qui ont perdu un de leurs parents enfants Mais il y a toujours une figure de substitution. Peut-être pas toujours la même. Il y a toujours un oncle qui est venu plus proche de la mère, éventuellement, où il y a eu, une tante, où il y a eu quelqu'un, où le père s'est remarié avec quelqu'un. Bref, il y a un triangle qui s'est reconstitué. On n'est pas du tout là dans le même cas que qu'une famille recomposée, parce que il y a un choix complet de la... Il y a un choix complet du parent qui est présent par rapport à un parent de substitution, mais ce parent de substitution, il a toute sa légitimité parce que l'autre parent est définitivement absent, il est décédé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être mis en concurrence avec un autre parent qui ne serait pas là, puisqu'il est mort. Et donc, j'ai vu effectivement des configurations d'orphelins dans un beau triangle qui se développait bien. Je ne dis pas que c'est un développement qui se fait sans souffrance, que c'est un développement qui est facile, mais que voilà, ça peut se passer correctement. Et votre dernière question, si je me souviens bien, c'est le triangle pour l'enfant adopté, c'est ça ? L'enfant adopté. Alors l'enfant adopté, c'est quelque chose qui est délicat, effectivement. Je sais que moi, c'est quelque chose qui me met toujours un petit peu en tension quand j'ai un enfant adopté qui vient me voir, parce que je sais qu'effectivement, on va travailler ce triangle, et que ce triangle est très délicat. L'enfant adopté, s'il a été adopté suffisamment tôt, ne se pose pas de questions sur son père et sa mère. Pour lui, son père et sa mère, c'est les personnes avec qui il vit. Il sait qu'il a un père ou une mère biologique ailleurs, qui effectivement peuvent intervenir dans sa vie, mais il a identifié comme père, c'est le père avec lequel il vit, comme mère, la mère avec laquelle il vit. Ils appellent papa-maman, et effectivement, il y a un véritable triangle qui s'est constitué là. La difficulté, effectivement, c'est toute celle des origines, c'est toute celle du lien du sang, et là, vous avez toutes les configurations possibles. Vous avez des enfants adoptés qui vont chercher à connaître leurs origines. Il y a d'autres qui ont la possibilité de les connaître, qui ne vont pas vouloir les connaître. Et puis c'est tout à fait respectable, il faut pour les respecter. Vous avez souvent, chez les enfants adoptés, une adolescence qui est particulièrement délicate. Pourquoi ? Parce que l'adolescence, c'est le moment où on va se séparer de ses parents. Et cette séparation des parents vient réveiller la première séparation, celle des parents biologiques qui n'étaient pas là. Donc l'adolescence est particulièrement délicate. Et souvent, à ce moment-là, vous avez des enfants adoptés qui se prêtent à avoir des comportements complètement déviants, mais simplement pour tester la solidité du lien avec leurs parents adoptifs. Je peux vous citer un exemple tout à fait extrême. J'étais jeune psychologue dans un CMP, et on traitait des parents qui venaient nous voir complètement affolés. Leur fille de 16 ans avait disparu. Et cette fille s'est prostituée pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle est revenue. Et elle est revenue pourquoi ? Pour voir si ses parents l'acceptaient en l'état. Et donc les parents avaient conçu, surtout, accueillez-la à bras ouverts le jour où elle reviendra. Et c'était fini. Après, elle est rentrée dans le rang, entre guillemets, sous les coups, c'est bien passé. C'est cette fille, la solidité du lien, elle avait besoin de le tester dans une condition extrême. Est-ce que je vais continuer à être accepté, quoi que je fasse ? Et comme ses parents l'ont accepté, quoi qu'elle fasse, alors ça va. Elle a pu mener sa vie adulte, c'est-à-dire qu'elle pouvait se séparer de ses parents en ayant l'assurance que jamais ils l'abandonneraient. Donc oui, ce triangle était, malgré cet aléa dramatique, ce triangle était fonctionnel avec cet enfant adopté. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ?
Oui, merci.
Voilà. Oui, je t'en prie.
On entend parfois que certains comportements homosexuels viendraient justement d'un problème de relation, un lien avec le matriarcal, etc. Ou alors, bref, est-ce que le fait de rétablir ce que vous faites, faire ressortir justement ces manques, peuvent conduire à changer un comportement sexuel ?
Alors, la question de l'homosexualité est une question qui est hyper compliquée. Les causes sont multiples. Moi, les cas que j'ai traités, les causes étaient toujours dans le triangle. Il se passait quelque chose entre le père, la mère et l'enfant, effectivement. Quelque chose qui était pas ordonné. Les personnes qui m'ont demandé de les sortir de cet état, on l'a fait toujours en travaillant la relation avec les parents. Et donc, voilà, il y a des personnes qui ont réussi à se remettre d'aplomb, effectivement. En gardant quand même toujours une fragilité. Donc oui, c'est bien là aussi. Enfin, moi, les cas que j'ai vus, mais je ne veux pas en faire une généralité, les cas que j'ai vus, ça se passait dans ce triangle.
Pensez-vous que les fratries jouent un rôle sur l'harmonie du triangle? Et vous arrive-t-il d'utiliser ce levier sur votre thérapie?
Oui, beaucoup. Alors, effectivement, j'ai parlé du triangle. D'ailleurs, c'est vrai, votre question est bonne. Je voulais dire en conclusion, j'ai oublié. J'ai parlé du triangle parce que pour moi, c'est un point essentiel de développement de notre personnalité. Mais il n'y a pas que le triangle qui intervient dedans. Il y a bien évidemment la fratrie. Il y a bien évidemment la famille élargie, les grands-parents, les oncles, les tantes, etc., avec des cercles de plus en plus éloignés. Et puis il y a bien évidemment aussi tout l'environnement social, l'école, le catéchisme, la paroisse, etc., les couteaux, etc. Donc tout ça, évidemment, ça joue. Ça joue, simplement, les facteurs déterminants, ils sont quand même dans le triangle. Cette question est intéressante parce que vous avez des cas multiples d'enfants qui ont été dans des triangles dysfonctionnels, mais qui en revanche sont tombés dans des grosses scoops bien structurées, où ils sont tombés sur un excellent aumônier, etc., et qui se sont reconstruits avec ça, qui ont pu compenser des manques dans le triangle. J'ai beaucoup d'admiration pour ces enfants parce que ils ont eu une plus grande difficulté que les autres, mais ils ont pu effectivement s'en sortir. Donc le triangle, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel, mais il y a d'autres registres, heureusement, je veux dire, il y a des roues de secours dans notre culture, il y a d'autres éléments. Et effectivement, la fratrie, c'est un point qui est très important. Dans mes thérapies, il m'arrive très fréquemment de faire venir des frères et sœurs, et de travailler avec une personne, avec un frère, avec une sœur, etc. Parce que ce qu'on n'arrive pas à faire avec les parents, on peut, si on se met bien en connivence avec un frère ou une sœur, prendre de la force, se reconstituer, et finalement ensuite arriver à le faire avec les parents. Donc les frères et sœurs, c'est un point extrêmement fort, c'est un soutien très, 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 très intéressant. Et dans les thérapies, moi je m'en sers beaucoup. Voilà. Oui.
Je voudrais savoir quelle est l'influence de la filiation des caractères entre parents et enfants. En quoi ça vient perturber, comment vous le vivez, comment vous le conjuguez avec votre triangle?
Qu'est-ce que vous appelez la filiation des caractères?
On peut avoir un lien privilégié en termes de... avoir le même caractère que son père, par exemple, et ça peut-être venir perturber les relations entre le...
Oui, alors sauf que là-dedans, j'ai jamais vu de règle claire là-dessus. En tout cas, j'ai pas vu de règle. Vous avez un fils qui peut ressembler à son père et bien s'entendre avec son père et pas avec sa mère, et puis dans la fratrie d'à côté, vous avez un fils qui va ressembler à son père, s'entendre bien avec sa mère et pas avec son père, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de loi là-dessus. Il n'y a pas de loi, je pense que c'est surtout ce qui se passe dans le triangle qui va déterminer la relation. Par ailleurs, une autre remarque là-dessus, c'est très délicat en psychologie de faire la part de l'inné et la part de l'acquis. Dans le caractère, qu'est-ce qui est inné chez un enfant? Qu'est-ce qui est acquis? Moi, je suis incapable de le dire. J'ai jamais vu de psychologue qui était capable de faire clairement cette différence parce que nos connaissances ne sont pas assez abouties. J'ai quand même tendance à considérer que énormément de choses sont acquises et s'acquièrent justement dans ce triangle. Je pense qu'un caractère, il se construit, il se façonne dans cette relation, justement. Il y a forcément une part d'acquis, une part d'inné, mais je suis incapable de la cerner.